Alors, voyons. Nébuleuse. Néandertal, néanmoins, néant. Néarc, Nébo, Nebraska, nébuleuse. Obscurcie par les nuages, comme un ciel nébuleux. Astro, objet céleste qui, contrairement aux étoiles et aux planètes nettement délimitées, présente un aspect diffus et vaporeux. Ok. Alors, je vois pas bien le rapport à quoi que peut-être, en tout cas. Nébuleuse.info, c'est un site. C'est un site qui a un an et qui a pour vocation de rassembler les alternatives, réflexions et luttes autour du travail social et de la santé. Et Nébuleuse.info et son collectif, eh bien, le 5 mars 2016, ils organisaient à l'atelier des Canulars une petite fête pour fêter leur un an et inviter les copains, camarades et autres travailleurs sociaux qui étaient là pour présenter eux aussi leurs projets plus ou moins avancés.
Alors, c'est bien simple, on va d'abord présenter le collectif Nébuleuse, nos questionnements, notre évolution depuis un an. Et ensuite, il y a plusieurs collectifs qui sont là, a priori, qui vont se présenter un petit peu. Et l'idée, c'est un peu de faire du lien entre les différents collectifs. Et pourquoi ? Parce qu'on s'ouvre à la publication. Le but, c'est que ça devienne de plus en plus participatif. Voilà, sur Internet, sur nébuleuse.info.
Pourquoi t'es là ce soir, par exemple ?
Parce qu'il y avait à manger.
C'était bon ?
Comment ?
C'était bon ?
Bah, pour l'instant, c'était plutôt pas mal, ouais.
Ouais.
C'est relevé.
C'est bon,
mais c'est pas mauvais. Il y a de l'hummus, du céleri, salade, riz. Et une tambouille. C'est relevé.
C'est relevé, ouais.
Mais c'est pas mauvais.
Chouette, si on prend un peu, bon. Je crois. Oui.
Non, là, après, on voulait faire un petit point aussi et puis ouvrir la discussion là-dessus s'il y avait des gens qui voulaient interagir avec nous là autour, mais pas forcément sur ce moment-là, mais après, plus tard dans la soirée ou par mail ou peu importe. En fait, parce que la soirée de présentation l'année dernière, le site était tout neuf encore, donc on avait des idées comme ça, on était un peu parti de comment on pensait organiser le site, notamment les catégories qu'on voulait faire, et en fait, là, au bout d'un an, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'on se confrontait à pas mal de problèmes. Enfin, on a, comme disait Jérémy, en fait, on a passé un an à chercher un peu tout le type d'articles qui existaient déjà sur Internet et qui pouvaient nous intéresser, qu'on avait envie de faire apparaître sur le site. Et on s'est pas mal posé de questions sur comment, en fait, on classait tout ça, on organisait tout ça. Donc, on était au départ parti avec tout un tas de catégories. Mais qui nous allait pas forcément sous la forme parce qu'elle reprenait pas mal les catégories qui sont déjà à l'œuvre dans le secteur social, qui classent les gens par type de problématique, par type de pathologie, ou enfin voilà, de ce genre de choses. Donc en fait, on a passé pas mal de temps à se questionner sur nos catégories. D'ailleurs, il y a un texte sur le site qui s'appelle.
De l'usage des catégories,
voilà, qui explique un peu en fait c'est quoi la problématique autour de faire des catégories, même pour un site internet. Et en fait, c'est obligé de classer d'une certaine manière, de toute façon, les articles qu'on met, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi de classer et quel discours en fait ça porte aussi de faire des catégories, de classer, voilà, comme ça. Donc en fait, on est bien conscient que nos catégories, elles sont que le reflet de comment ça a été plus simple pour nous de classer sur le site, mais qu'elles ne valent pas grand-chose en dehors de ça, et qu'on est tout le temps en questionnement sur aussi comment on peut repenser cette question-là. Et il y avait un autre grand questionnement aussi qu'on avait, c'était sur en fait, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire apparaître comme discours, comme article sur le site. Qu'est-ce qui vaut, en fait, qu'est-ce qui est à nos yeux légitime d'apparaître ou pas. Et il y avait un truc qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de dire que c'est pas du tout que des projets qui seraient complètement hyper novateurs ou hyper. Enfin, que ce serait pas du tout que des initiatives qui seraient complètement en dehors des champs ou des institutions classiques ou ce genre de choses, et qu'au sein de chaque institution, il pouvait y avoir des trucs, des projets qui étaient menés qui étaient chouettes, même si l'institution, elle était à chier, enfin, qu'elle était vraiment. Pourrie en tant que telle dans par qui elle a été financée, ou voilà, quel autre projet elle pouvait faire par ailleurs, et qu'on voulait pas être dans non plus quelque chose de binaire comme ça, en disant voilà, il y a les institutions complètement pourries et puis il y a des choses alternatives chouettes, et que il y avait des... Enfin, nous, ça nous paraissait plus intéressant de voir aussi, de montrer qu'il y avait des marges de manœuvre possibles dans des institutions et qu'il y avait des personnes concernées ou des professionnels ou quoi qui arrivaient à faire des projets intéressants aussi. Et aussi, quelque chose donc, qui s'est posé là encore plus récemment, mais qui est tout le temps aussi en questionnement pour nous, c'est de dire qu'en fait, il y a tout un tas de sujets aussi sur lesquels on ne prétend pas du tout avoir... la vérité ou être certain aussi, nous, d'avoir toutes les réponses et d'avoir tranché, en fait, sur qu'est-ce qui était bien ou mal. En fait, on ne voulait pas être dans cette question-là, mais nous-mêmes, au sein du collectif, on n'a pas du tout une seule vision de est-ce qu'on est pour ou contre les agressions sexuelles, par exemple.
Bah après, pour continuer un peu, du coup, sur l'évolution du site, c'est que nous, au début, on voulait qu'il y ait plein de gens qui participent. Et aussi, maintenant, il y a une nouvelle interface où on peut publier vraiment des articles pour que ce soit plus collaboratif et que ce soit vraiment... Enfin, le but, c'est que ce soit vraiment plein de gens différents qui participent et différents collectifs. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait faire... En parallèle du site, des rencontres où il y a plusieurs collectifs qui peuvent se rencontrer, bah là, à Lyon, mais aussi dans d'autres villes ou à l'international.
Soyons fous. Ouais. Bah, c'est ça aussi l'idée que ce soit collaboratif, c'est que nous, on va vachement lire les trucs qui nous intéressent et rechercher ces trucs-là. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des catégories qui sont peu remplies. L'idée, c'est que chacun puisse apporter les trucs chouettes qu'il lit ou qu'il écrit, quoi.
Non, oui, du coup, nous, on fait une permanence de soutien juridique aux sans-papiers. Par contre, on n'est pas travailleur social, nous. On est même très peu travailleur, mais... Et du coup, on est, je pense, à peu près 8 personnes, et on fait ce truc-là, on accueille les sans-papiers qui ont des problèmes juridiques, même si juridiquement, on n'est pas au top du top. Mais sur l'accueil, par contre, c'est hyper bien, parce que nous, du coup, parce que si on a fait ça, c'est parce que nous, on a pendant longtemps, on a galéré avec des amis sans pape et on a vu que ce qui leur a été proposé pour les aider, c'était quand même pas vraiment bien, notamment au niveau de comment ils étaient considérés. Dans plein d'assos qui font du soutien juridique aux sans-papiers, justement, ils sont hyper légalistes et quand même des fois pas mal, enfin je veux pas critiquer les autres, mais des fois pas mal paternalistes avec cette bonne vieille mentalité française, là, un peu néocolonialiste. Du coup, nous, on s'était dit qu'il fallait surtout pas... Pour nous, ce qui est important, c'est surtout de pas être paternaliste. Et en fait, si on fait ce mouvement, c'est pas juste pour aider les gens qui sont dans la galère, même si des fois, on arrive un petit peu à les aider quand même. Et puis, vu que ça fait à peu près un an qu'on existe, petit à petit, on devient meilleur. Mais le but, c'est effectivement de fédérer des gens. Créer du lien et après pouvoir faire des mouvements. Et du coup...
C'est à la Lutine.
C'est à la Lutine, c'est juste à côté, tous les lundis, 18h30 à 20h.
La soirée se passe très très bien parce qu'il y a beaucoup d'échanges et nous c'est vraiment la mise en lien qui compte vraiment entre à la fois les gens et les collectifs. Et ce qui est important c'est vraiment l'interculturalité, l'échange entre personnes,
les convergences,
les luttes effectivement et l'ouverture des possibles également et des brèches aussi.
La 8 rue Diderot sur les pentes de la Croix-Rousse, et c'est lundi 18h-20h. Là, c'est surtout cours de français, mais également, là, maintenant, c'est passé à apprendre l'anglais. Et il y a aussi un pote qui veut maintenant faire des cours d'arabe. Donc voilà, ça tourne un peu. Et c'est un peu varié, quoi. Ça peut être autant des personnes qui parlent pas du tout français que des personnes qui parlent français, mais qui ont besoin d'aide aussi pour des démarches ou pour un CV, lettre de motivation, etc. Et il y a des demandeurs d'asile, des sans-papes, tchadiens, algériens. Là, il y a 3 Afghans qui sont arrivés, qui ont leurs empreintes en Hongrie. Du coup, bah, ils ont la procédure Dublin qui demande de transférer leur dossier. Et donc, ça commence par les cours de français, mais après, en fait, au bout d'une semaine sur l'autre, y a le lien de confiance qui se met en place. Et après, ça parle d'autres sujets. Ça peut parler des papiers ou de la demande d'asile, mais aussi des problèmes de logement, de santé, etc. etc. Donc voilà, ça part sur les problèmes de démarche vis-à-vis de la langue, mais après ça peut parler de plein d'autres trucs et de voir après comment on peut aider au cas par cas avec ceux qui viennent. Donc c'est tous les lundis, il y a le tract qui est là, voilà. Et aussi le but c'est de faire aussi un infokiosque juridique comme ça peut exister ailleurs, pour que les personnes qui passent au-delà des cours de français ont des infos pratiques, des infos juridiques, des guides traduits en plusieurs langues, et en même temps il y a une collecte de dons permanente à la Plume Noire, qui permet aussi de récolter que ce soit des fringues, des sacs de couchage, des sacs, voilà, des chaussures, il y a plein de trucs aussi. Voilà.
Bah bonjour. Voilà, donc on vient ce soir avec Baptiste pour parler d'un projet de bagagerie sociale sur Lyon. Voilà, on est tous les deux travailleurs sociaux dans le secteur de l'urgence. Ça fait quelques temps déjà, donc on a pu en tout cas repérer ce besoin. Donc voilà, une bagagerie sociale, en gros, dans l'esprit, c'est un lieu où les personnes sans domicile peuvent poser leurs affaires dans un lieu qui n'est pas forcément institutionnalisé.
On a mis en place une réunion publique mardi dernier. On était déjà une petite trentaine de personnes motivées à créer ce projet. Du coup, c'est aussi dans cette dynamique-là qu'on est là ce soir, pour faire passer un peu cette information-là que du coup l'objectif c'est vraiment d'ouvrir un lieu gratuit pour les personnes SDF, pour qu'elles puissent vraiment poser leurs affaires, qu'elles soient plus mobiles sur Lyon ou ailleurs. Mmh. Et du coup voilà, tout est à créer, tout est à penser, toute idée est bonne à prendre.
Pas envie d'en faire une institution ce projet, donc c'est en ça qu'on est aussi vachement intéressé pour essayer d'en tchatcher sur des lieux militants, sur des lieux de vie autogérés. Sur des choses simples qui relèvent tout simplement un peu de la relation de l'un à l'autre et de voir comment on peut se fédérer autour de ce truc-là.
Association Logeurs d'Esprit. Donc j'ai monté cette association avec un copain, un collègue, il y a plusieurs mois. C'est, l'idée en gros c'était de monter un programme Un chez soi d'abord à Lyon. Donc le Un chez soi d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient toucher différentes choses dans le travail social et dans le travail médical. Dans le travail social, en gros, ça vient renverser l'idée du parcours résidentiel sécurisé. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est qu'en France, la prise en charge, elle se fait d'une seule façon, c'est en parcours escalier. Et donc, les personnes SDF partent de l'urgence. Et puis, en fonction de leur parcours, elles partent en CHRS, en logement temporaire, en résidence sociale, pour aller jusqu'au logement social et enfin le logement classique. Cette ascension, il y a à peu près 6% des personnes qui arrivent à la mener jusqu'au bout. Elle est souvent coupée par la prison, la rue, l'hôpital psy, le plan foie qui se termine et du coup on retourne à la rue. Enfin, souvent c'est coupé par des retours à la rue et ce qui est inhérent à la rue. Donc on n'a rien inventé, on n'invente rien du tout d'ailleurs, c'est ça. C'est le un chez soi d'abord, c'est le housing first. Ça a été initié aux États-Unis dans les années 90. Et en gros, c'est un docteur qui s'appelle Sam Tienberis qui est new-yorkais et qui a dit au début des années 90 « Moi, je prends les SDF avec des troubles psychiatriques liés au parcours de rue directement dans des logements et il a placé l'accompagnement dans le logement. » Mais ce n'était pas de l'accompagnement par le logement, c'était le logement qui était inhérent à l'accompagnement qui allait se mettre en place à l'intérieur. Et ça a marché, et ça fait 20 ans que ça marche bien. Ça s'est déployé aux États-Unis un peu partout, en Amérique du Nord, en Europe du Nord, un peu partout sauf en France. En France, ça s'est déployé autrement. C'est médecin qui s'appelle le docteur Girard, qui est marseillais. Après un voyage aux États-Unis, il est rentré à Marseille. Il a décidé d'ouvrir un squat pour des patients SDF qui présentaient des troubles psychiatriques, plutôt état limite, schizophrénique. Et donc, il a ouvert un grand squat et c'était la période des Don Quichotte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les tentes, voilà. Donc, c'est à ce moment-là que les SDF sont un peu rentrés dans les télés de tout le monde. Et ce squat a un petit peu interpellé le gouvernement. Donc, à l'époque, c'était Roselyne Bachelot. Et elle a lancé une expérimentation qui se termine en avril, là. Et donc, ils ont testé le 1 chez soi d'abord en France. Mais c'était scientifique, expérimental et financé par l'État. Donc, les gens étaient tirés au sort et 100 étaient mis dans le dispositif 1 chez soi, et 100 dans le dispositif de la file active classique. Et là, ils sont en train de faire une comparaison. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va être déployé, on pense, un peu partout en France. Nous, en parallèle de ça, on a un historique institutionnel, travailleurs sociaux, donc dans les grosses associations lyonnaises. À un moment donné, ça nous a plus convenu de travailler dans ces conditions. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de mal aux gens et que du coup, ça me faisait beaucoup de mal. Ou alors peut-être que le fait que ça me fasse du mal, je faisais du mal aux gens. Enfin, j'en sais rien, mais c'était compliqué. Moi, je travaillais à Aralis sur les accueils d'urgence de Vénissieux. Donc, c'est des anciens foyers travailleurs migrants qui sont dans des états de délabrement extrême et où tous les types de populations sont présents. Donc, demandeurs d'asile, sans-papiers, SDF, femmes isolées, enfin, il y a un peu tout le monde. Il y a peu d'accompagnement, il y a peu de travailleurs sociaux et c'est assez compliqué. Donc, j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler là-dessus. Je me suis dit, peut-être qu'à Lyon, il y a moyen de faire un programme chez soi d'abord, mais sur un versant non institutionnalisé.
Nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous. Nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous, dévouez-nous, dévouez-vous, vouez-vous à nous, vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous, avouez-nous, avouez-vous, nouez-vous à nous, nouez-nous à vous.
Ouais, enfin, je sais pas si du coup vous êtes déjà un peu sensibilisé à cette approche ou non, mais on peut peut-être faire un petit historique. Si c'est pas très clair et si c'est trop long, n'hésitez pas à me couper. Mais en fait, donc elle parle de Intervoice, donc c'est le réseau international des entendeurs de voix qui s'est mis en place dans pas mal de pays. Et c'est un mouvement qui est né en fait de la rencontre de Marius Rom. Donc, il y a un psychiatre et de Patty Haag, qui était sa patiente, qui était diagnostiquée de schizophrénie et qui, en fait, se reconnaissait pas dans ce diagnostic-là. Elle entendait des voix par ailleurs. Et elle a eu un long parcours psychiatrique qui ne l'a pas tellement aidée, en fait, à vivre avec ses voix. Et elle a dit un jour à son psychiatre, bah, vous croyez en Dieu, vous pensez qu'il est réel, pourquoi moi, mes voix sont pas réelles? Et donc, à partir de ce moment-là, elle leur mis un peu en cause une conception traditionnelle de la psychiatrie, de parler par exemple de délire hallucinatoire et que les voix n'étaient pas spécialement réelles. Et donc ça a un peu ébranlé ce psychiatre et Patty Haag a demandé si ce serait possible de rencontrer des gens qui auraient une expérience un peu similaire des phénomènes. Et donc ils ont fait un appel à la radio et en fait il y a 750 personnes qui ont répondu, et dont 450 personnes qui entendaient des voix, et parmi elles seulement 150 personnes qui étaient passées par la psychiatrie. Et du coup, ils se sont rendus compte de plusieurs choses assez exceptionnelles, un peu des révélations. C'est déjà que c'était une expérience commune. Aujourd'hui, on sait qu'entre 8 à 14% de la population ont des expériences de phénomènes. Et que puisque tout le monde n'était pas suivi par la psychiatrie, enfin, passait pas forcément par des structures de soins, c'était pas en soi un symptôme de maladie mentale. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des groupes... Tu me coupes ainsi, c'est pas... des groupes qui se sont montés, des échanges, des groupes de parole entre père aidant, des personnes qui vivaient une expérience plus ou moins similaire, et notamment par exemple des gens qui racontaient qu'ils vivaient très bien avec les voix et les phénomènes, et même un peu comme ce qu'elle a pu dire, que, en fait, que ça leur était que ça les aidait, quoi, que c'était des phénomènes qui étaient des liens pertinents avec leur vie. Et en continuant ces groupes et en étudiant un peu ce qui s'y passait, on s'est rendu compte que la différence n'était pas tant la manière dont les personnes entendaient ou vivaient les phénomènes, mais la relation qu'ils entretenaient avec ça. Est-ce que c'était une relation de confiance, de méfiance, d'ignorance, de déni, etc. Et que le fait d'en parler ouvertement, ça pouvait déjà réduire le sentiment d'être isolé. Il y a plein de personnes qui vivent ces phénomènes-là. Et aussi, que les gens n'étaient pas forcément victimes de forces un peu incontrôlables, qui est souvent la signification à coller au diagnostic de schizophrénie ou de bipolaire ou de maladie mentale, etc. Et donc l'idée, c'était vraiment d'ouvrir des espaces d'échange pour pas partir d'un modèle unique, mais de se dire que peut-être que ces catégories-là, elles conviennent à certaines personnes, peut-être qu'elles ne conviennent pas à d'autres, et comment on pourrait chacun explorer nos perceptions subjectives, trouver un sens, apprécier, explorer en fait ces phénomènes, et à partir de là peut-être inventer d'autres mots, d'autres langages pour juste définir mieux ces expériences. Et...
Tu veux du sel ?
Du sel ?
C'est du cookie dough, c'est un gâteau à la crème de marron. Il faut un pot de crème de marron, 3 œufs, genre 150 g de beurre, 150 g de sucre. De la farine si tu veux, ça change rien d'en mettre ou pas. Mais si t'en mets, c'est un peu plus farineux bien sûr. Et de la levure, c'est pareil. C'est si t'as envie que ce soit un peu avec de la levure ou un peu sans levure.
Salagabou, la menchigabou, la bibidi bob bidibou. L'important c'est la façon de le dire. Bibidi bob bidibou.